Je vais m'efforcer de vous montrer comment l'Union européenne est née et en quoi on peut considérer que ses fondateurs ont bien œuvré puisqu'ils sont parvenus aux résultats qui avaient été initialement prévus. Dans des conditions d'ailleurs qui, évidemment, n'empêchent pas que ces impérialismes rivaux se voient parfois en position de conflits graves. Pour voir comment sont gérés ces conflits, évidemment, il n'y a rien de mieux qu'une perspective historique. Comme l'histoire réelle de l'Union européenne est quand même une histoire relativement récente sur le plan historique, malgré les propos de Gerbet qui nous explique que tout ça remonte à Charlemagne, je vais prendre les choses au moment où elles sont parties, c'est-à-dire dans l'après-Première Guerre mondiale, et je vais m'inscrire en faux contre ce qui caractérise la vision de l'histoire de l'Europe aujourd'hui, car il faut bien le dire, j'ai fait un petit ouvrage il y a quelques années qui s'appelle « L'histoire contemporaine sous influence ». S'il est un domaine dans lequel l'histoire contemporaine est sous influence, c'est bien l'histoire de l'Europe. Et d'ailleurs, pour des raisons pratiques, notamment parce que l'Europe est devenue une source de financement très abondante de colloques sur des questions qui demandent tout sauf une recherche en archives, surtout pas d'ailleurs de recherche en archives, ce qui permet de s'aligner sur la thèse qu'a développée Gerbet, qui est l'auteur par définition de l'Union européenne, qui explique donc que le continent européen ne rêve depuis Charlemagne pratiquement que de s'unir et a été parfois divisé par l'histoire dans des conditions qui, par bonheur, vont vers désormais une solution définitive. Donc, c'est une présentation idyllique d'un côté et qui prévoit de l'autre une sorte de loup-garou. Il faut toujours un loup-garou quand il y a un petit chaperon rouge. Le loup-garou, c'est la Russie. Finalement, les choses se seraient faites parce que un vilain loup-garou russe aurait tellement fait peur aux Européens que l'Union européenne se serait faite contre lui. Il fallait bien quand même que les victimes se misent de concert pour résister à ce péril si grand. Alors je le dis d'emblée, on le verra, le loup-garou, je n'en parlerai pas, parce qu'il n'a eu dans l'affaire à peu près strictement aucune influence. Mais strictement aucune, sauf, on verra, dans la troisième partie que j'envisage, on pourra quand même en dire quelques petites choses, mais pas tellement parce qu'il est actif, parce qu'il ne peut pas faire grand-chose et que ce qui lui était dévolu comme zone d'influence, ma foi, ne convenait pas au pays le plus puissant, et ce pays le plus puissant avait pour objectif de faire en sorte que l'ensemble du continent européen lui fût fidèle, allié et constitua une sorte de gigantesque marché qui serait à sa taille. Autrement dit, je ne vais pas parler comme Gerbet, qui constitue le nec plus ultra de nos étudiants, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui le savent. Depuis cette année, la question de la construction européenne, ça s'appelle « Penser et construire l'Europe », est arrivée dans les concours de recrutement de l'enseignement, et on peut dire qu'elle a formé une espèce de symbole du discours lénifiant sur l'Europe. D'abord, sa bibliographie n'a comporté que ce qu'on pourrait appeler de la littérature whist. Cette bibliographie officielle, éliminé à peu près tout ce qui, sur le plan historique, traitait sérieusement des conditions de naissance de l'Europe. J'ai l'air d'exagérer, mais je n'exagère aucunement. D'ailleurs, vous pourrez vous renseigner, c'est-à-dire que vous pourrez comparer la bibliographie officielle, parce qu'elle a ce caractère officiel qui paraît dans Historien et Géographe, qui a donc été publié en septembre 2007, et la critique que j'en ai faite, et qui a été publiée dans La Pensée, et qui fait à cette bibliographie le reproche majeur de ne pas se constituer en bibliographie historique, mais en bibliographie complaisante, au point même d'ailleurs qu'il peut vous sembler curieux que le critère pour figurer au début de la bibliographie dans la zone à étoiles, une étoile, deux étoiles, il n'y a pas de quatre étoiles, mais bon, il y a des une et deux, un certain nombre des ouvrages sont purement et simplement financés par les communautés européennes. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, moi, je me contente de faire de l'histoire, comme j'ai toujours fait, et donc de constater que l'histoire de la construction européenne, c'est au fond l'histoire de la gestion par des impérialismes rivaux, plus ou moins puissants, d'une entité, d'un marché, tout le monde connaît ce terme maintenant, d'un marché qui permet ces impérialismes rivaux de se déployer beaucoup mieux que quand les marchés étaient morcelés par des frontières et des États nationaux. Alors bien entendu, il y a dans la construction européenne, tout le monde le sait, plus que trois pays, il y a plus que les États-Unis, plus que l'Allemagne, plus que la France, mais quand même, ces trois-là forment un cœur qui est essentiel dans toute l'histoire de l'Europe. Et donc, c'est à cela que je vais m'attacher, surtout, ce qui n'empêchera pas éventuellement, bien sûr, dans la discussion, d'aborder d'autres questions. Mais vous verrez que d'autres pays apparaissent, bien que de manière beaucoup plus discrète. Donc, la France semble évidemment, en 1918, un impérialisme victorieux, puissant, mais c'est un impérialisme victorieux en voie d'affaiblissement. Elle a en face d'elle un impérialisme en pleine santé, enfin en pleine santé, en tout cas en plein essor, et qui est l'impérialisme américain. Et j'entends par impérialisme évidemment un concept historique clair, hein, c'est celui que définissaient les penseurs, pas forcément d'ailleurs d'extrême gauche, ni marxiste, celui que définissaient les penseurs d'avant 1914, qui analysaient l'impérialisme comme le stade auquel étaient parvenus des pays capitalistes qui ne pouvaient plus se contenter de leur marché, ni en matière de commerce de marchandises, ni en matière de placement de capitaux. Donc les États-Unis étaient, ce qu'on ignore souvent, un pays, le grand vainqueur, le véritable grand vainqueur de la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale leur avait permis d'entrer de manière massive dans le continent européen, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et il y avait un impérialisme, un troisième, fort puissant, qui venait de subir un sévère échec et qui était vaincu en 1918. Et sur la manière dont se redessinent les ensembles, il faut donc dire quelques mots avant d'aborder une des trois périodes que je vais traiter ici, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, puisque je vais diviser ma conférence en trois parties, hein, j'aime bien la chronologie, moi, l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale, et bien entendu l'après-guerre, mais je m'arrêterai à une partie historique, hein, dans la discussion viendront sans doute des périodes plus récentes. Alors, en ce qui concerne l'entre-deux-guerres, il faut se rappeler que le programme américain de la constitution d'une Europe à la taille de l'impérialisme américain avait été défini par un texte qu'à peu près tout le monde connaît sans le connaître, c'est-à-dire les fameux 14 points de Wilson de janvier 1918, dans lequel beaucoup de gens croient de bonne foi à l'exposé des motifs d'une espèce de professeur Nimbus sorti de Princeton de très bonne volonté, ne rêvant que la paix pour l'Europe et étant mal compris des Européens qui ne comprenaient rien et qui d'ailleurs étaient très nationalistes. En fait, pas du tout. Quand on lit bien les 14 points de Wilson, on se rend compte que c'est le programme de Roosevelt, lequel évidemment a été mis en œuvre dans l'Union européenne de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la constitution de marchés considérables fondés sur la liberté du commerce, la liberté de circulation des capitaux, etc. Voilà les États-Unis qui bien entendu veulent profiter de la défaite de l'Allemagne pour imposer à l'Allemagne un certain nombre de conditions un peu pénibles, mais en même temps qui ont besoin de l'Allemagne pour s'installer en Europe. Un besoin urgent de l'Allemagne avec laquelle les États-Unis sont liés par des liens de capitaux contractés avant 1914 et qui sont déjà massifs et qui naturellement concernent des secteurs d'activité qui caractérisent les deux économies, c'est-à-dire des secteurs d'activité très modernes, l'industrie électrique, les industries chimiques, etc. Enfin, je ne vais pas évidemment donner toute la liste. Ce qui veut dire des intérêts contradictoires, des intérêts communs quand même, et en particulier un intérêt qui passe par l'interdit jeté contre les impérialismes européens qui ne sont pas l'impérialisme allemand, les impérialismes européens qui, vainqueurs ou présumés vainqueurs, voudraient bien profiter de leur victoire pour affaiblir l'Allemagne et prendre sa place sur le plan industriel, sur le plan du marché des capitaux, etc. Je veux désigner la France et l'Angleterre. Je vais laisser un peu l'Angleterre parce que elle est un élément, bien sûr, mais je vous ai dit, je vais surtout parler de trois. Alors, la France, elle a une position, elle aussi, complexe. Et je parle de l'impérialisme français. En fait, je parle des gens qui dirigent. Vous voyez, de ces gens qui disent, vous avez voté, éventuellement, si vous votez bien, c'est bien, mais si vous ne votez pas bien, on se passera de votre vote. Donc, moi, je vous parle ici de ceux qui dirigent et de ceux qui décident. Et qui, souvent, peuvent décider sans difficulté, sans se heurter à grande opposition. Donc la France, d'un côté, avec l'Allemagne, elle a tissé des liens qu'on ne connaît pas, mais en fait, après 1870, on s'est fait quand même des associations de capitaux. Il y en a une qui est très frappante, c'est celle en Sarre de l'usine de Dillingen, qui, quand la France est victorieuse, a 60% de capitaux français, quand la France est vaincue, a 40% de capitaux français, évidemment, le reste est pour l'Allemagne, et donc c'est le cas après 1870, 40% capitaux français, 60 d'allemands, après la Première Guerre mondiale, 60 de français, 40 d'allemands, d'Allemagne, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, 60% d'allemands et 40% de français. Donc il ne faudrait pas penser que le capitalisme français est tout plein de vengeance ou exclusivement de vengeance. Certes, il veut une paix dure, et il faut le savoir, on ne le sait pas, mais les archives sont catégoriques. La paix dure a été la paix des puissances capitalistes françaises qui ont bénéficié de la guerre, bon évidemment qui faisaient la pluie et le beau temps avant la Première Guerre mondiale, mais qui ont montré dans la Première Guerre mondiale à quel point elles étaient puissantes. Et on peut en gros considérer que ce qu'on appelle la politique dure, c'est cet ensemble constitué de la Banque de France, ensemble de banques privées, du comité des houillères et du comité des forges, c'est-à-dire deux institutions qui se sont constituées à partir du Second Empire et qui font de la France le champ de leurs décisions, sachant d'ailleurs que ces organismes ont des pouvoirs décisionnaires sur les gouvernants. Et sur le Parlement, bien entendu. Donc, la France, ces hommes en France, parce que c'est eux qui ont fait la politique dure, voudraient bien que la victoire rapporte. Et comment la victoire peut-elle rapporter? Vous savez que c'est la fameuse, la décision de déclarer l'Allemagne responsable, ce qui donne un droit juridique à réparation, bref. Le ministre des Finances dit aux Français que l'Allemagne paiera et l'impérialisme allemand voudrait bien prendre la place de l'Allemagne sidérurgique, prendre la place de l'Allemagne chimique. Il faut savoir que le marché des colorants était avant 1914 à 88%, le marché international des colorants était à 88% détenu par l'Allemagne. C'est-à-dire que pratiquement toute la chimie des colorants qui passait par le marché international était allemand. Eh bien, la France s'est fait un retour chimique, après elle en a refait un autre, on le sait, en 1940, avec l'idée qu'elle pourrait prendre sa revanche chimique, comme sa revanche sidérurgique, etc. Ça, c'est la politique dure que le comité des forges et ses amis font appliquer par les hommes politiques. Je n'en cite qu'un, vous connaissez, qui est Poincaré, qui est un homme du comité des forges. Le comité des forges l'a fait député, l'a fait tout d'ailleurs, hein, comme il fera de son homme, de son autre homme, par exemple Albert Lebrun, un président de la République. Et donc Poincaré, qui doit beaucoup au comité des forges, est prêt à établir pour le comité des forges une paix effroyable jusqu'au moment où le capitalisme français se rend compte qu'il est bien petit face au capitalisme allemand et au capitalisme américain soudé. Comme il n'arrive pas, je n'entre pas dans les détails, je ne vais entrer que dans un détail. Il tente un dernier coup de la politique dure, c'est-à-dire qu'il obtient de Poincaré l'occupation de la Roure, et puis finalement, comme ça ne fonctionne pas, il réfléchit pendant l'année 1923, il réfléchit à une autre solution, et au terme de l'année 1923, parce qu'on a dit que c'était un choix de la gauche de gouvernement, de la gauche radicale, en fait non, ça n'est pas un choix de la gauche radicale, c'est un choix pour lequel a opté Poincaré quand les sidérurgistes ont fait pression sur lui et quand le secrétaire d'État américain a dit à son ambassadeur aux États-Unis, à son ambassadeur à Washington, ou vous cédez sur la Roure, ou on continue la spéculation sur la monnaie et on vous fait tomber le franc à un niveau nettement plus bas que le niveau déjà très bas où il se trouve. Poincaré cède, et c'est le début de ce que, moi qui travaille sur la défaite de 1940, j'ai depuis longtemps considéré comme le premier acte de la débâcle de 1940, c'est-à-dire le moment où l'impérialisme français s'est dit que, puisque la politique dure ne fonctionnait pas, il fallait s'arranger. Et c'est le plan d'Oze, et on peut considérer que le plan d'Oze, qui porte le nom d'un général américain qui, quand il n'était pas général en guerre, était banquier, et d'autres banquiers d'ailleurs comme Young, qui donne son nom au plan suivant mais qui est quand même l'artisan essentiel du premier plan, ce plan d'Oze qui aboutit à examiner joliment la capacité de paiement de l'Allemagne, c'est-à-dire à décréter qu'elle ne peut pratiquement rien payer. Et donc c'est ce plan d'Oze qui fait entrer l'Europe d'aujourd'hui dans sa première phase active, puisque c'est dans cette période du plan d'Oze 1924 et de sa traduction politique qui s'appelle les accords de Locarno, qui reconnaissent les frontières occidentales de l'Allemagne, mais pas les orientales, c'est donc dans cette période que se met en place une politique qui a été interprété par un de mes collègues, il devient moins excellent ces temps-ci, regarde-moi les archives, mais un excellent collègue américain qui faisait l'observation que la politique dure était devenue une politique molle quand les dynasties sidérurgiques, comme les dynasties de Vindel et les dynasties Laurent de Lorraine, avaient opté pour la politique d'entente. Elle ne sortirait plus de cette politique d'entente, quelles que fussent les autres conditions, et d'ailleurs, une des premières traductions de cette politique d'entente a été la défaite et les conditions de la défaite de 1940, mais ça viendra peut-être dans la discussion. Et c'est dans cette deuxième moitié des années 20 que s'engage, je viens de le dire, une phase particulièrement active l'Europe d'aujourd'hui, avec en particulier la Constitution qui n'était pas neuve mais qui a pris une nouvelle ampleur, de ces institutions qui permettent au capitalisme d'essayer de gérer sa concurrence, ses contradictions, c'est-à-dire les cartels internationaux. Il y avait eu des cartels internationaux avant la guerre de 14. On en a refait, et on en a surtout refait un, qui est l'ancêtre de notre Union européenne, qui est l'ancêtre direct de la CECA, et qui est le cartel de l'acier de septembre 1926, par lequel le président de l'ARBED, célèbre centre célèbre société sidérurgique formellement du Luxembourg mais associant divers capitaux, par lequel le président de l'ARBED donc a fédéré les divers groupements sidérurgiques, parmi lesquels, au premier rang, d'une part les groupes allemands, d'autre part les groupes français. Dans ce cartel de l'acier, l'Allemagne à elle seule représentait, alors il y avait les Belges, les Luxembourgeois bien entendu quand même, à tout seigneur tout honneur, et tout ça faisait que l'Allemagne représentait déjà presque 50%, puisque elle représentait 44% d'un, pardon, un peu plus de 40% d'un côté, mais plus de 6% était prévu pour la SAR, et nul n'ignorait que la SAR retomberait bientôt dans le giron allemand. Et comme en plus l'Allemagne a dépassé tous les quotas prévisibles et imaginables qui étaient prévus dans le cartel, on peut considérer que l'Allemagne était officiellement redevenue, avec le cartel de l'acier, la puissance ultra-dominante de l'acier européen, voire de l'acier mondial, comme avant la guerre qui avait vu sa défaite. Bien entendu, ce qui est arrivé à l'acier est arrivé à bien d'autres choses, et on est entré dans une phase qu'on voudrait nous présenter comme idyllique de collaboration entre capitalistes allemands et capitalistes français. La collaboration idyllique mérite quand même examen dans la mesure où, certes, à partir de cette deuxième moitié des années 20, les Français et les Allemands ne dissimulant aucunement leur volonté de réaliser la défaite par le fer et le feu, qui évidemment était inacceptable. Mais les intérêts français finalement s'en contentaient. Et c'est donc à ce moment-là que les dynasties sidérurgiques et bien d'autres intérêts ont fait pression pour que l'entente fût plus intime encore, et à cet égard, il fallait utiliser des hommes qui étaient des auxiliaires, certes des auxiliaires qui semblent importants, enfin, qui sont plus connus d'ailleurs en général que les sidérurgistes ou les industriels ou les banquiers, mais des hommes qu'on considérait comme des serviteurs très utiles. Et je veux signaler en particulier un certain André-François Poncet, qui avait été alors idéologue de grand talent, ayant un très beau cursus scolaire, puisqu'il était normalien, agrégé d'allemand, etc. Depuis les années 20, il était le principal salarié idéologique du comité des forges, enfin je dis le principal, un des principaux, et il s'occupait de la presse du comité des forges, il gérait son bulletin quotidien, qui trouvait toujours que les avantages des ouvriers étaient absolument accablants pour l'ensemble de l'industrie et des activités économiques françaises. Et il, bien entendu, on l'avait fait député, on dira que c'était à cause des électeurs, mais finalement peu moins à cause des électeurs qu'à cause des financements qui l'avaient rendu député. Et il était considéré comme si efficace, il s'était occupé par exemple de la gestion journalistique de l'occupation de la Roue, enfin c'était un idéologue parfait. Tellement parfait que le comité des forges a fait quelque chose dont il était tout à fait coutumier, c'est-à-dire que le comité des forges nommait notre ambassadeur à Berlin. Là encore, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Comment voulez-vous passer des accords sidérurgiques si vous n'êtes pas représenté par une personne compétente? Donc, je le dis quand même pour mémoire, après la Première Guerre mondiale, le premier ambassadeur en poste à Berlin avait été un des chefs d'une des dynasties sidérurgiques Escalité. C'était un Laurent. Charles Laurent avait représenté la France. Après quoi, s'en avait été un autre qui était bien méritant aussi pour la sidérurgie. Et on est passé en septembre 1931 à François Poncet. Ce François Poncet, on ne cessera de le retrouver, y compris de manière très active, dans la phase d'après 1945 de l'Union européenne. Alors, il s'en est allé à partir de 1931 préparer toutes les affaires européennes continentales. En particulier, la manière dont le capital français, après avoir obtenu de l'État français des prébendes gigantesques dans la SAR, devrait s'adapter à la remise à l'Allemagne de la dite Sarre. Et comment il faudrait gérer des indemnisations naturellement très importantes, ce que François Poncet a fait, ce qui lui a permis d'ailleurs de s'occuper entre autres de la partie française de l'accord international financier qui a permis à la solution d'union de toutes les droites sans exclusive de triompher en Allemagne en janvier 1933. Car François Poncet a été un des hommes, je l'explique dans un ouvrage qui s'appelle « Le choix de la défaite » de manière très, je crois, argumentée, a été un de ces hommes qui ont fait Hitler, car le capital allemand certes a fait Hitler, personne ne dira le contraire, mais tout de même le capital international a apporté à l'opération une très éminente contribution, et nous sommes obligés de signaler l'importance de la contribution française en général et celle de François Poncet en particulier. François Poncet était très lié à un politicien qui s'était fort enrichi par ses activités politiques, qui s'appelait, qui avait commencé socialiste, qui dans les années 30 ne l'était plus depuis longtemps, qui s'appelait Paul Laval, et Pierre Laval, pardon, et qui était venu présenter son ambassadeur en septembre 1931 et qui ensuite a continué au service de cette collaboration continentale, une action que chacun connaît ici. Les choses allaient déjà bien, sauf que sur le plan américain, elles commençaient à aller mal parce que d'abord la crise était arrivée, hein, 1931, c'est la crise, on est en plein dans la crise. Au contraire de ce qu'on raconte, la crise a été profonde en France, même si elle a été bien sûr moins brutale que dans une Allemagne qui dépendait entièrement du crédit étranger. Et en 1931, le capital français, toujours les mêmes, hein, le capital français a commencé à trouver que son idylle avec Washington était une idylle pesante. D'abord, l'idylle pesante avec Washington avait abouti à ce que les réparations ne fussent pas payées. Elles l'ont été encore moins à partir de 1929 qu'en 1924, et je parle même d'avant la crise, puisque les Américains étaient parvenus à édifier un autre plan de réparation, ou de liquidation des réparations pour parler clair, qui s'est appelé le plan Young. Ce plan Young, qui a mis les intérêts français très en colère, mais ces intérêts français ont fait comme s'ils étaient quand même très contents. Ils y ont trouvé des avantages d'ailleurs, ça permettait de conforter la politique très dure au salaire qui de toute façon est toujours indispensable car le salaire est toujours trop élevé dans toutes les circonstances. Donc au moins les États-Unis avaient ceci d'utile qu'ils aidaient entre bien d'autres à faire que le salaire fût le plus bas possible, ce qui est son statut normal. Il fallait qu'il fût encore plus bas avec la crise. Et dans cette crise, les Américains avaient un aspect peu engageant, c'est que leur concurrence devenait évidemment plus terrible encore, de sorte que le capital français s'est pris de passion pour une sorte de collaboration continentale. On adore ce terme continental, tout le monde comprenait de quoi il s'agissait, hein. C'était une collaboration entre les éléments du continent qui pourrait au moins pour un temps rejeter ce qui était au-delà des mers. Je le dis parce qu'on a l'impression que la collaboration économique, elle a commencé en 1940. Non. Hein, finalement, 1940 a permis que cette collaboration se tint dans des conditions plus favorables encore, mais enfin, elle était très 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 avancée depuis 15 ans et surtout depuis 9 ans. Donc, ces messieurs qui adoraient les États-Unis dans les années 20, ne les aimaient plus tant dans les années 30. Ils disaient, tel Paul Baudouin, président de la Banque d'Indochine, que les États-Unis n'avaient aucun idéalisme qui permît à l'Europe de vivre son expérience, de s'adapter à sa spiritualité, etc. Vous savez qu'on aime beaucoup toujours ce discours très spirituel pour des affaires somme toute très terre à terre. Et donc, ces messieurs qui avaient beaucoup aimé les États-Unis ne les aimaient plus tellement, bien que, quand même, ils respectassent encore les formes et prétendissent les aimer. Bon, les Anglais, ils les aimaient de moins en moins, ces Anglais dont j'ai parlé très peu. Et alors, je vous ai dit que je ne parlerai pas du loup-garou, je vais quand même vous en dire deux mots. Le loup-garou qui était dans son coin et qui n'avait pas grand, enfin, pas grand rôle en Europe, tout de même, inquiétait beaucoup ces messieurs, parce que la crise, évidemment, avait des aspects inquiétants. Et si la crise provoquait des remous sociaux tels que il fallut envisager le mécontentement des masses, enfin vous voyez ce qui s'exprime de temps en temps là. Et ces messieurs savaient très bien que l'Allemagne envisageait la guerre, tout le monde le savait, hein. Il n'y a que les populations qui ne le savaient pas, mais ceux d'en haut savaient très bien. Et l'un de ces représentants du capital français, alors là c'est un représentant banquier, était directeur général d'un des organismes du plan Jung, que personne ne connaît, comme je dis toujours à mes étudiants, des gens que personne ne connaît sont sur le sort de vos parents, de vos grands, ont eu sur le sort de vos grands-parents, de vos parents et de vous-même une importance bien plus grande que ceux dont on vous parle tous les jours à la télévision. Cet organisme, c'était la Banque des règlements internationaux, qui était une création américaine et qui avait institué ce qu'on peut appeler le premier club des banques centrales. Il est resté toujours là, hein, mais personne n'en entend jamais parler. Il a eu un rôle majeur à diverses étapes. Et le directeur général donc, de cette banque des règlements internationaux, un certain Kenney, disait en 1930... sachant à cet égard qu'il disait des choses très fantaisistes d'ailleurs, qu'il était persuadé que le problème n'était pas du tout le problème d'une future guerre, mais voyez, je le cite, « Plus je réfléchis à la situation, plus je suis convaincu, disait-il fin 1930, que le danger actuel n'est pas un danger de guerre internationale, ces messieurs en fait ne parlaient que de ça, mais un immense danger social. Dans le premier cas, nous sommes à Bâle. La banque était à Bâle, elle est toujours à Bâle d'ailleurs, où elle bénéficiait de la franchise fiscale et de l'attribution de dividendes et d'intérêts en or exclusivement. Nous sommes à Bâle, l'instrument de la coopération financière. Dans le second cas, ce n'est pas seulement nous qui sautons, mais c'est inévitablement une révolution mondiale à laquelle le dumping russe, le rapprochement des nationaux-socialistes et des communistes, l'isolement financier de la France se repliant sur elle-même, l'évolution des esprits depuis 3 mois et bien d'autres éléments travaillent avec rapidité. Kenney était très hypocrite, il ne redoutait pas du tout le rapprochement des nationaux-socialistes et des communistes, puisque son camp faisait même en sorte que les nationaux-socialistes arrivassent le plus vite au pouvoir en Allemagne. En revanche, vous observerez que les remarques relatives au dumping russe nous ramènent aux réalités contemporaines. Aujourd'hui, il paraît que c'est le textile chinois, mais l'argument était de même ordre, puisque la crise, c'était forcément à cause des soviets. On se demande d'ailleurs de quoi les soviets n'étaient pas responsables. Donc les soviets n'avaient pas grand intérêt dans l'affaire, à ceci près que Kenney montrait que la collaboration avec l'Allemagne était quand même la seule chose qui valut. Ah mais me direz-vous, tout ceci tout de même dans un moment de danger extrême de guerre. Oui, certes, mais enfin, en guerre, on peut s'arranger. On peut s'arranger avec un pays qui pratiquait une politique salariale, il faut bien le dire, exceptionnellement bonne. Car la grande bourgeoisie française avait eu beaucoup de sympathie pour la politique des salaires italienne, mais à partir du début des années 30, elle avait trouvé que les Allemands étaient encore bien mieux. Ça avait d'abord été Brüning, qui avait fait chuter les salaires de 15, 20, 25%, mais finalement, les salariés renaclant un peu, on avait trouvé bon de passer à une solution plus radicale encore, non plus d'ailleurs de baisse nominale des salaires, mais de leur blocage catégorique, alors qu'on laisserait les prix industriels s'envoler. Ça, c'était la solution hitlérienne. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi la solution hitlérienne ne leur attend plus, et pourquoi, finalement, je ne l'aborderai pas dans cette conférence, mais c'est le thème du choix de la défaite et c'est le thème de mon prochain livre qui porte sur 38-40. Ça explique d'ailleurs pourquoi ces messieurs de la banque et de l'industrie ont trouvé que le moyen le plus commode d'installer le modèle allemand en France serait d'ouvrir les frontières aux Allemands, puisqu'il n'est jamais, évidemment, de meilleur instituteur de modèle que le modèle par définition. Donc, ça vous explique, évidemment, dans quelles circonstances, ça viendra peut-être dans la discussion, est intervenue la défaite et dans quelles circonstances, et ce qui a suivi la défaite. De sorte que la collaboration allait bon train, les associations de capitaux allaient bien, les cartels de mieux en mieux, et c'est la deuxième période que je vais aborder, la guerre a permis au fond à cette Union européenne d'entrer dans une de ses phases les plus accomplies. Comme mes collègues qui se font offrir un certain nombre de colloques européens, trouvent que l'affaire est à bout, ils ont complètement évacué de la bibliographie de contemporaine de questions de concours cette question plus pourtant centrale de la collaboration européenne de 1940 à 1944 ou 45 selon les moments où l'Allemagne a été vaincue pays par pays. En effet, cette collaboration, il la borne au fond à des textes idéologiques sur l'Europe nazie, vous voyez. Donc comme ce sont des textes idéologiques, les industriels disparaissent de 40 à 44, on n'en parle pas, et on vous explique que ensuite l'Europe démocratique a ressurgi de ses cendres. Et ça me fait penser à un collègue qui a fait une histoire de la démocratie chrétienne, qui est une sorte de modèle du genre, qui s'arrête à 1933 pour l'Allemagne et qui revient et qui recommence en 1945, en considérant sans doute que le Zentrum catholique s'est évaporé de 1933 à 1945. Eh bien, mes collègues ont fait la même chose pour la Deuxième Guerre mondiale. Et alors moi, qui enseigne aussi les concours, j'ai été fort déçu, puisque évidemment je m'apprêtais, je l'ai fait d'ailleurs, à montrer à mes étudiants à quel point nous étions entrés dans une magnifique période de la collaboration européenne, au point que, alors ça je l'ai étudié dans un livre qui s'appelle « Industriels et banquiers sous l'occupation », on est entré dans la phase accomplie de ce qui avait déjà été largement entamé de 1925 à 1940. Commandes, évidemment, commandes allemandes, qui n'avait jamais été aussi considérable, cartel, nouveau, ou remanié, comme disaient les Allemands, hein, on va gagner de l'argent ensemble, enfin c'est nous les vainqueurs, on en gagnera plus que vous. Hein. Vous serez gentil, vous resterez sur votre précaré, éventuellement dans vos colonies, mais l'exportation en Europe, c'est pour nous. Bien. Et les associations de capitaux, comme avant-guerre, on les a faites sur le terrain, mais surtout, comme avant-guerre, en terre neutre, en Suisse par exemple, pour des raisons largement fiscales, mais aussi en temps de guerre, pour des raisons juridiques, c'est-à-dire que, ma foi, on pouvait se poser la question du lendemain de ces associations de capitaux qui dépendaient en dernière instance des vainqueurs du sort de chacun des pays signataires, et c'est ainsi qu'un certain nombre d'associations de capitaux ont été conclues directement en Suisse. J'aurais tendance à penser, moi, étant donné l'une d'entre elles que j'ai analysée dans Industriels et banquiers, que les remaniements d'après la Deuxième Guerre mondiale en matière de cartels chimiques, qui font que nombre de groupes français ont disparu, absorbés par des groupes allemands, sont directement dans la lignée des accords de 1941 entre Bayer d'un côté et Rhône-Poulenc de l'autre, mais ça viendra peut-être dans la discussion. En tout cas, il y a des présomptions sérieuses. Et alors, me direz-vous, et alors les pauvres États-Unis qu'on avait quand même trouvé un peu gênants. Bon, les États-Unis, eh bien, nos milieux dirigeants éprouvaient pour eux, avaient éprouvé pour eux un grand mépris, puisqu'ils n'étaient pas assez spiritualistes. L'Allemagne l'était, en revanche. Mais ils n'étaient pas totalement exclus des prébendes. D'abord parce que les États-Unis s'étaient installés en Europe. Ils avaient prêté tellement d'argent à l'Allemagne, ils avaient tellement investi d'argent en Allemagne, ils avaient continué à le faire avec la crise, ils avaient naturellement continué à le faire avec Hitler. Je dirais même que c'était de mieux en mieux, puisque l'économie de guerre assurait des profits fabuleux. D'ailleurs, à peu près maintenant, tout le monde le sait, puisque des tas de gens qui ignoraient ces alliances de capitaux ont commencé à les découvrir quand on a parlé du grand-père d'un président des États-Unis qui avait fait des affaires fabuleuses avec les Allemands pendant la guerre. En effet, les États-Unis, qui avaient des motifs tout de même d'entrer en guerre contre l'Allemagne, puisque l'Allemagne devenait quand même un concurrent gênant, les États-Unis ont nommé en Allemagne et ailleurs des hommes de confiance allemands, en Allemagne bien sûr, éventuellement allemands en France, sous l'occupation, qui ont permis au profit de grossir suffisamment, quitte à ce qu'ils ne fussent pas rapatriés tout de suite, mais les lendemains de la guerre le permettraient. Et puis, comme à partir de 1941, dans les plaines de Russie, le Blitzkrieg a connu des difficultés considérables. Comme les États-Unis sont entrés en guerre en décembre 1941, sans conduire encore une action militaire très considérable. Enfin bref, les Allemands et bien d'autres d'ailleurs, le capital français aussi, tous les capitaux, se sont bien rendus compte que l'Allemagne ne serait pas victorieuse. Comme l'Allemagne ne serait pas victorieuse, on a assisté à une sorte de partage qui fait que, entre 1941 et 1944, à des dates variables suivant les individus, le grand capital est passé invariablement de l'amour passionné pour le Blitzkrieg à la passion pour ce que j'appelle la Pax Americana. Alors ça donne des résultats quelquefois assez loufoques, puisque vous vous apercevez que les plus grands collaborationnistes, comme Paul Baudouin ou comme François Le Hideux, qui ne cessaient de tonner contre le capital américain, sont devenus ensuite des pro-américains d'un enthousiasme délirant qui, il faut bien le dire, d'ailleurs, n'a plus jamais cessé depuis. Et donc, on est parvenu, pendant la guerre, à une situation qui a montré aux capitaux français qui s'étaient laissés charmer par leur association avec le capital allemand que, quand même, les États-Unis allaient diriger la suite des opérations. Je le mentionne pour mémoire, mais sachez quand même qu'on discutait à la Banque de France dès mai 1943 de ce qui aboutirait à Bretton Woods, c'est-à-dire à l'établissement du dollar en maître des échanges internationaux et à la mise sur la touche de la Grande-Bretagne, dont il convenait tout de même de récupérer la puissance déclinante. Je dis bien printemps 1943. Bon, les uns et les autres, je l'ai dit, devenant américains, pro-américains, enthousiastes au fil des ans. Mais me direz-vous, alors, ça nous fait une Europe, ça allait faire la perspective d'une Europe zone d'influence américaine seulement. Eh bien, pas vraiment. Revoilà mon loup-garou. Le loup-garou, comme on le sait, avait apporté une contribution éminente, plus qu'éminente même à la Deuxième Guerre mondiale, puisque je sais bien que la première année, ça fait frémir mes étudiants, mais enfin après ils s'y font, c'est quand même l'armée rouge qui a vaincu les divisions de la Wehrmacht, quoi qu'on voulût dire, quoi qu'on ait prétendu ces dernières années. Et par conséquent, il était certain que l'Union soviétique, dans cette nouvelle Europe, obtiendrait peut-être les buts de guerre, au moins momentanément, qu'elle sollicitait. Que sollicitait-elle ? Elle sollicitait de récupérer ses frontières qui avaient été fort entamées en 1917-1920, et elle sollicitait ce que mes collègues appellent volontiers un glacis de protection. Bon, enfin bref, ce qui serait une zone d'influence. Alors, me direz-vous, les États-Unis étaient donc habitués, s'étaient donc habitués à l'idée qu'ils contrôleraient une partie de l'Europe, mais pas tout. C'est inexact. Ils se sentaient en position tellement forte que d'abord, ils pensaient, leur ambassadeur à Moscou, Harriman, un des plus grands banquiers, un des plus grands industriels des États-Unis, mais enfin, tous les hommes politiques sont des grands banquiers, des grands industriels aux États-Unis. Harriman disait en 1944 que l'Union soviétique était si pauvre et si miteuse que peut-être si on lui promettait $1 milliard, elle accepterait de ne demander aucune zone d'influence, elle se contenterait éventuellement de récupérer son territoire, mais pas plus. Ce qui veut dire que dès la guerre, et on dispose aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ça fait des décennies, hein, on dispose de travaux, notamment de travaux américains, qui attestent que les États-Unis se sentaient en position suffisamment forte pour avoir l'idée que la zone d'influence soviétique serait fugace. Et que cette zone d'influence soviétique pourrait bien tomber dans l'escarcelle américaine. Elle avait pour ce un allié de première grandeur dont je n'ai pas parlé, mais dont j'aurais déjà dû parler. C'est-à-dire que dans les pays que les États-Unis ne contrôleraient pas, et je vous en parle à dessein pendant la guerre, car la collaboration s'est établie pendant la guerre, le Vatican pourvoirait à des tas de choses. Il se trouvait que dans ces futures zones du cordon, de l'ex-cordon sanitaire qui deviendrait des zones d'influence soviétique, le catholicisme était majoritaire, ou très majoritaire, ou en pourcentage écrasant, et que, ma foi, l'Église catholique servirait d'auxiliaire des classes dirigeantes nationales qui, elles-mêmes, bien entendu, préféreraient de beaucoup le maintien de la propriété privée éventuellement sous tutelle américaine, mais autrefois c'était sous tutelle française, anglaise, etc., évidemment, à des expériences plus traumatisantes en matière de propriété privée des moyens de production. Par conséquent, c'est dès la guerre que commença cette collaboration que connaissances superficielles ou un tapage superficiel de ces dernières années pourrait laisser penser caractéristique du pontificat de Jean-Paul II. Vous voyez, Pacelli, dit Pie XII depuis mars 1939, avait pourvu à l'affaire bien avant le pape polonais, ou partiellement polonais, mais ça viendra peut-être aussi dans la discussion. Donc se préparait l'avenir pendant la guerre, les États-Unis d'ailleurs, s'arrangeant pour contester à la Russie toute discussion sur les Bulgares pendant la guerre, avec cette idée que il n'était pas utile de discuter avec l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique était en temps de guerre forcément en position relative de force, puisqu'on avait besoin quand même qu'elle continuât à perdre des millions d'hommes et de femmes pour que la victoire fût acquise. S'en discutait avec elle dans ces conditions, comme les Anglais l'avaient fait d'ailleurs, on lui ferait tout ce qui lui faisait plaisir. Tandis que si on discutait à partir du moment où elle aurait mis bas les armes, elle ne pourrait plus discuter de rien et elle serait bien obligée d'accepter le sort qu'on prévoyait pour elle. Ce qui m'amène évidemment à ma troisième partie, c'est-à-dire à la période qui a suivi mai 1945. Je dis mai 1945 de manière générique parce que j'évoque la défaite finale de l'Allemagne, mais la puissance américaine en Europe avait commencé dans certains pays bien avant. Je n'entre pas dans les détails, mais il faut le savoir. Les conditions du plan Marshall, qui sont une étape absolument décisive dans la construction européenne, ces conditions du plan Marshall, elles sont annoncées en temps de guerre dans les pays qui ne connaissent pas l'occupation allemande, comme par exemple la Grande-Bretagne, qui concède aux États-Unis un certain nombre de droits, y compris d'ailleurs en termes militaires, qui ne seront concédés que par les pays libérés de l'occupation allemande. Donc les États-Unis, après la défaite de l'Allemagne, sont en mesure alors même qu'ils ont déjà, depuis l'avant-guerre, des positions énormes, des positions de puissance considérables dans l'Europe, toute zone d'ailleurs, hein, mais surtout en Europe occidentale, les États-Unis sont en mesure de fixer le sort de ce qui est directement leur zone d'influence, et particulièrement du pays crucial, c'est-à-dire l'Allemagne, que désormais ils occupent. Ah, mais me direz-vous quand même, il y avait plusieurs zones. Oui, il y avait plusieurs zones, mais les États-Unis étaient en mesure de dominer très vite les trois zones occidentales et de faire d'ailleurs une bonne partie de ce qu'ils souhaitaient faire, même en zone orientale, mais ça viendra peut-être plus tôt dans la discussion. Et que voulait-il en Europe ? Il voulait en Europe ce qu'il voulait en 1918. Mais en 1918, ils n'ont pas réussi. Ils voulaient établir ce qu'ils appelaient une union douanière. Ça vous est familier. Il semble que l'Irlande, elle, répugne un peu à la dite union ces temps-ci. Mais il s'agissait en effet de créer en Europe, dans un premier temps dans leur sphère d'influence, un marché unique qui fut ce que j'appellerais par ailleurs un ventre mou, c'est-à-dire un marché unique qui ne fut grevé d'aucune taxe risquant de s'opposer aux marchandises américaines, car les États-Unis voulaient que cette Europe fut entièrement libre de ce point de vue. Ah mais me direz-vous, ils étaient anti-protectionnistes, pas du tout. Ils étaient très protectionnistes, mais le protectionnisme les protégeait eux, mais n'était pas censé protéger les autres, de sorte qu'un journaliste plein d'humour avait fait observer, un journaliste de The Nation avait fait observer en 1945 que la formule que proposaient les États-Unis était en quelque sorte une formule de liberté entre un tigre et un mouton, le tigre étant la puissance américaine, alors que en Europe, l'Europe affaiblie avait plutôt une allure de mouton. Sans entrer dans les détails, je mentionne le fait que ces divers projets qui ont été appliqués ici et là, avec des pressions ici et là, qui avaient été précédés par de très fortes pressions pendant la guerre, c'est pendant la guerre que d'états de gouvernements européens réfugiés aux États-Unis ou fractions réfugiées aux États-Unis s'étaient pris d'une passion pour l'Europe absolument dévorante. Donc ces pays, ces hommes qui ont été mis ensuite à la tête de chacun de leurs pays, l'Allemagne partie, ces pays étaient priés d'accepter une union douanière dans laquelle il y aurait évidemment une vedette. Cette vedette, c'était l'Allemagne. C'était un peu délicat à faire accepter aux populations. Et même quelquefois, à certaines fractions des classes dirigeantes, quand même, qui auraient préféré ne pas récupérer vous voyez, la même puissance allemande immédiatement. Il faut dire avec honnêteté que les représentants du capital français étaient entrés dans un pli de docilité à l'égard de l'Allemagne telle qu'ils n'ont pas compté dans le camp de la grande résistance. Mais certains milieux étaient, voyez, manquaient de souplesse. Je pense à De Gaulle, hein, qui en 1946 a dit qu'il quittait le pouvoir parce que la France avait ses positions sur le Rhin, ce qui était un gros mensonge, et qu'elle avait préservé ses colonies, ce qui était aussi un gros mensonge. Car il faut bien se avoir en tête que, outre l'intérêt que présentait l'Europe continentale elle-même ou l'Europe métropolitaine elle-même, l'Europe était détentrice d'empires, que ces empires étaient riches en matières premières et que l'objectif des États-Unis depuis la fin du XIXe siècle était de disposer de ces matières premières en franchise, alors même que ces matières premières étaient grevées de ce qu'on appelle le principe de l'exclusivisme colonial qui ne bénéficiait qu'aux empires. Donc vous voyez, c'était une opération extrêmement tentante, simplement qui supposait que l'Allemagne fût prioritaire pour ce qu'on appelait la reconstruction européenne. Ça a donné lieu à des petits développements un peu délicats, d'autant que les populations n'étaient pas enthousiastes. Évidemment, quand on a parlé officiellement de réarmement, elles l'étaient encore moins, mais je laisserai ici cet aspect de côté. Et ça a provoqué tellement de légers frottements que, par exemple, le ministre des Affaires étrangères qui avait accompagné de Gaulle et qui était un homme de droite, mais il faut bien le dire, qui n'aimait ni les exigences américaines ni les exigences allemandes, un certain Bidault, n'était pas enthousiaste pour l'opération Marshall, bien qu'il prétendît le contraire, et qu'il fut remplacé à l'été 1948 par quelqu'un qui donna absolument satisfaction, qui est, vous savez, notre saint d'entre les saints, c'est-à-dire Robert Schuman, le père de l'Europe. Alors celui-là, je ne vous dis pas les deux étoiles auxquelles il a droit dans la bibliographie. Robert Schuman, qu'on nous présente comme ce saint laïque, ce brave homme qui s'est jeté dans les bras d'Adenauer pour éviter au continent européen toutes les guerres futures, on pourra parler d'Adenauer aussi, était un homme d'extrême droite, lui aussi d'ailleurs, il faut bien le dire, un produit du comité des forges, puisque, comme Poincaré, il avait été élu des vins d'aile, il avait dirigé l'action catholique Mosellane, et j'ai montré dans Le choix de la défaite à quel point se livrait l'action catholique Mosellane, dont les propos ne se distinguaient en aucune façon des propos de l'action française ou d'autres contre les juifs, les rouges, les maçonniques, etc., etc., puisqu'il y en avait pour tout le monde. Donc, Schuman, qui s'était montré dans l'avant-guerre, ma foi, compromis, qui s'était en plus compromis beaucoup au début de la guerre, enfin, et sous Vichy, puisqu'il avait quand même voté les pleins pouvoirs à Vichy. Je montre dans mon prochain livre, d'ailleurs, comment, lui, il a fait partie du lot qui a été soustrait à tout châtiment, tout de suite. Il paraît que c'était un cas un peu délicat. Bon. Mes archives ne m'ont pas expliqué pourquoi il était si délicat, mais enfin, il s'est remis très bien d'une affaire que certains ont mis quelques mois ou quelques années à liquider. Et donc, c'est dans ce cadre que Schuman, le saint des saints, et le grand ami d'Adenauer, homme de paix et catholique éminent, tous deux d'ailleurs, c'est dans ces conditions, en mai 1950, que les États-Unis ayant tonné depuis des mois, pour ne pas dire des années, pour que la France enfin se décida à établir cette union douanière, que Schuman a lancé son fameux projet, vous le savez, qui est la grande étape, alors l'étape ultime, je dirais, de notre Europe d'aujourd'hui. Dérive ? Aucunement. Alors, dans un petit bouquin qui s'appelle « L'intégration européenne », j'ai montré ce qu'était cette affaire sur laquelle les plus gros mensonges circulent. Alors, il paraît que ces messieurs voulaient faire une Europe pour établir la paix. C'est ce qu'a dit, il faut bien le dire, je suis désolé de montrer cette franchise, enfin, la gauche de gouvernement a dit qu'on allait avoir là une sorte d'Eldorado futur, que le comité des forges n'aurait plus aucun rôle, que les prix baisseraient, le prix de l'acier baisserait, tout irait bien. Bon, ça n'était pas vrai. C'était même très faux. Mais, et je suis en mesure de dire, connaissant les archives comme je les connais, que ceux qui ont tenu ce discours savaient très bien qu'il était faux. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est qu'en petit comité, il disait le contraire. Et comme je n'aime pas avancer sans prouver, je vais vous donner un exemple. Le 9 mai, donc, Schuman avait fait son discours déchirant. Le 10 mai, alors, il avait fait son discours déchirant sur la paix. En fait, pourquoi il l'avait fait ? On nous a expliqué que c'était Monet qui avait tout caché au Quai d'Orsay. C'est un énorme mensonge, puisque tout le monde était au courant au Quai d'Orsay. Et qu'on se posait même la question, benoîtement Quai d'Orsay, de dire bah, il faudrait qu'on gagne du temps. Alors, pourquoi fallait-il qu'on gagne du temps ? Parce que, je n'ai pas parlé du réarmement allemand, mais il se trouve que les États-Unis, en mai 1950, le 10 mai, allaient proposer à la France de remettre ces braves Allemands sous l'uniforme de la Wehrmacht, ce qui était aussi délicat. Vous voyez, là c'était encore pire que le référendum en Irlande ou en France récemment. Donc c'était délicat et c'est en quelque sorte pour circuiter cette étape que Schumann a lancé l'affaire, dont tout le monde évidemment était au courant au Quai d'Orsay. Et ça, c'était le 9 mai. On nous expliquait que c'était pour faire une économie de paix. Naturellement, c'était entièrement faux, puisqu'il s'agissait de liquider définitivement toutes les limites à la production de guerre de l'Allemagne qui avait repris, merci pour elle, dès mai 1945 d'ailleurs, sous l'égide des États-Unis, de l'Angleterre, etc., même de la France en zone française. Bien. Et donc, après ces excellentes propositions, le 10 mai, des hauts fonctionnaires se réunissent au ministère des Affaires étrangères. Il y a les finances, il y a, vous voyez, tous ces gens qui travaillent sur des choses sérieuses. Et de quoi discutent-ils ? Alors qu'on expliquait aux populations que c'en était fini du chômage, que c'en était fini des prix élevés de la sidérurgie. Eh bien, de quelque chose de très simple, alors que d'ailleurs tous les milieux dirigeants venaient d'expliquer que ce qui allait se produire ou ce qui correspondait au discours de Schumann, c'était la résurrection du cartel de l'acier de 1926. Cette fois-ci, c'était mieux. C'était le cartel de l'acier plus le charbon. Or, le charbon était financé par le contribuable. Vous me direz, c'est vrai même avant-guerre. Il était financé par le contribuable. Le contribuable, on ne lui racontait pas, était financé quand même. Bon, mais on lui a fait croire après que le charbon a été étatisé alors qu'il a fallu le financer. Enfin, bref, le charbon était payé par le contribuable et quand même, à la différence de la période antérieure où il était privé, le contribuable pouvait faire en sorte que le charbon fût très peu cher, ce qui permettait de préserver les profits de la sidérurgie qui, elle, n'était pas nationalisée. Donc, ces messieurs se retrouvent aux affaires étrangères. Et de quoi discutent-ils ? Ils font observer qu'il va falloir quand même trouver le moyen de diminuer dans les années à venir les effectifs de mineurs de 25%. Grand Dieu ! Le 10 mai 1950, vous voyez, la dérive n'a pas duré longtemps. Hein. Bon, c'est-à-dire que le projet était évidemment un projet de mise en commun des ressources, si je puis dire, ou de division du travail, tel que le capital avait tenté ou commencé à tenter de l'établir dans l'avant-guerre, qui permettrait, bien entendu, l'alignement sur les salaires les plus bas, les prix de revient les plus bas, mais les prix les plus hauts. Si vous lisez mon petit bouquin, vous verrez comment les hauts fonctionnaires, un ou deux ans après ça, dès que la CECA est entrée en fonctionnement, on fait observer que c'était terrible, que les prix de la sidérurgie n'arrêtaient pas d'augmenter, ça n'était pas grave, du moment que les salaires n'augmentaient pas trop. De sorte que, on est allé vers une Europe qui était à la fois une Europe allemande, parce que tout de même, dans la division du travail, la Ruhr aurait de plus grandes chances que le Borinage. D'ailleurs, vous voyez, si on évoque le double discours, pendant qu'on disait aux travailleurs belges que l'Eldorado allait durer encore 10 ans, 20 ans ou plus, eh bien, les spécialistes disaient que le Borinage serait fermé bientôt. Ils avaient raison, il a été fermé. Mais on le savait d'emblée. De sorte que, comme le montrent très bien quelques hauts fonctionnaires dont j'ai collecté les rapports, on allait entrer dans l'Europe du dumping social, de l'alignement des salaires sur les salaires les plus bas, de l'immigration massive de travailleurs venant soit des colonies, soit des zones les plus arriérées de l'Europe où les salaires étaient très bas. Bref, ce serait ce que c'est et qui ne représente à aucun titre une sorte de dérive par rapport à un projet mythique qui aurait échoué somme toute parce que l'homme est faillible et que les meilleures intentions produisent les plus mauvais effets. Non, pas du tout. Le comité des forges a trouvé là une excellente chose, tout ceci d'ailleurs en couinant beaucoup, en protestant beaucoup, en disant qu'on l'assassinait, qu'on lui faisait gagner beaucoup trop peu d'argent. Et d'ailleurs, je dois vous le dire, en disant aux représentants de l'Europe, C'est assez intéressant, comme les hauts fonctionnaires, que l'Europe ne servait à rien qu'au titre ou qu'au rôle de paravent. Par exemple, en décembre 1953, Monet, à un moment, qui était haut commissaire à la CECA et qui se croyait important, discutait avec Pierre Ricard, un de nos grands sidérurgistes, qui voulait ceci ou cela. Et Monet prenait des grands airs quand Pierre Ricard, je le raconte dans mon livre, lui a dit « Mais mon cher, si nous fermions la haute autorité, personne ne s'en apercevrait. » Ou avait dit Pierre Ricard ou d'autres à Monet et à leurs amis, à un moment où ils ne voulaient pas faire telle fleur aux sidérurgistes italiens, « Vous voulez nous obliger à traiter avec les Italiens ?» De Castantienne, nous quittons l'Europe. Cependant que les hauts fonctionnaires expliquaient que l'Europe était un magnifique paravent, puisque tout ce qu'on n'avait pas pu faire jusqu'ici, eh bien désormais, en se drapant du manteau de l'Europe impératif, on pouvait le faire. Et ça datait, ça, de 1952, 53, 54, parce que ce que je vous raconte, c'est même avant la première Europe des Six, vous voyez, ma recherche s'est à l'époque arrêtée au moment de l'entrée en lice de la CECA. Finalement, cette Europe, c'est bien l'Europe qui a été faite, et c'est bien une Europe, il faut le dire, parce que on le mesure aujourd'hui. On est à un stade de cette Europe où, au fond, les pires prévisions qui ont toutes été faites, hein, entre, je dirais, l'extrême gauche et le seul syndicat qui, à l'époque, était hostile à l'Europe, la CGT, les autres syndicats étaient favorables à l'Europe, expliquant que cette Europe serait une Europe de la prospérité. Donc, il y a deux groupes qui ont expliqué ce qui allait arriver. On va dire l'extrême gauche et les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, bien entendu, qui adhéraient cependant à cette Europe. Ils disaient que c'était catastrophique, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ils trouvent toujours qu'on ne peut pas faire autrement, parce que finalement, cette Europe avait un grand avantage qu'elle a conservé. Elle permettait d'établir le salaire le plus bas possible, et le salaire s'est toujours trop élevé. Donc, on peut faire l'observation qu'il a fallu un stade extrêmement avancé de cette Europe pour que finalement, presque comme prenant en masse, les pires prédictions de ces années 50, qui expliquaient qu'il y aurait division du travail, qu'il y aurait une situation de concurrence sur les salaires, d'alignement sur les salaires les plus bas, d'alignement sur les temps de travail les plus élevés, eh bien, il a fallu 50 ans. Marshall disait, nous construisons pour 50 ans. Il avait tort, ils ont déjà construit pour 60. Nous construisons pour 60 ans quelque chose que les constructeurs ont entièrement prévu. Et la question de l'Europe le montre bien, les règles de fonctionnement des sociétés, les règles de fonctionnement du capital n'ont pas été modifiées par l'Union européenne, elles ont pu s'exercer avec une liberté plus grande de la part des détenteurs du capital, puisque finalement, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de ce qu'un des hauts fonctionnaires avait expliqué dans les années 30, il s'agissait avant tout de faire la police commune des salaires. Et de ce point de vue, il ne faut pas parler de dérive, il faut parler d'une remarquable réussite de cette Europe de l'union douanière qui aujourd'hui commence à provoquer des rejets des peuples tels qu'on se passe de la vie des peuples pour continuer sur cet excellent chemin.